Ah, mais c'est un merveilleux choix que celui de Jésus, de prendre le chemin de Jésus. On mène aux plus riches splendeurs. Que Dieu vous bénisse. Constantin nous demande de remercier le Seigneur pour son retour après un voyage qu'il a effectué en Égypte pendant quelques jours. Et il est rentré lundi. Et nous sommes heureux que tout se soit bien passé. Amen. Remercierons le Seigneur pour cela. Père Céleste, c'est un privilège que de pouvoir se réunir autour de ta parole. Avant cela, de t'adorer, de te parler dans la prière, de te louer dans les cantiques, de louer ton saint nom, de le sanctifier. En somme, reconnaissant de nous avoir permis d'y aller. Comme disait ton serviteur David autrefois, que la louange ne s'éloigne pas de ma bouche, que tu en es digne. Nos péchés, que ta grâce nous environne. Ouvre notre esprit comme tu l'as fait à tes disciples au jour de la résurrection, afin que nous comprenions les Écritures, que nous puissions savoir comment marcher. Car nous avons le cœur à t'obéir, à obéir à ton appel et à faire les choses d'une manière qui te soit agréable. Accomplis tes promesses envers nous. Aide-nous à accomplir les nôtres, les vœux que nous faisons. Mais nous savons que si nous sommes infidèles, toi tu restes fidèle. Lorsque nous faisons des vœux, nous sommes souvent en incapacité de tenir. Ça dépend des circonstances. Mais toi, tu es au-dessus des circonstances. Tu les connais, tu les maîtrises, tu les utilises pour accomplir ton plan. Tu es Dieu, tu n'as jamais été surpris. Mais nous, lorsque nous voyons ce que nous avons prévu se réaliser, nous venons à toi pour te dire merci. Notre frère a prévu un voyage en Égypte. Tu as pourvu, il y est allé, il est revenu. Cœur avec lui, unis à lui, nous te venons, te disons merci pour l'avoir gardé. Merci aussi de nous avoir gardé pendant son absence et de nous permettre ainsi de nous rassembler. Nous voulons aussi te prier pour le frère David, ainsi que pour son épouse. Ils ont attrapé un virus quelque part. Mais tu es le Dieu de toutes choses. Tu guéris le virus. main bénissante sur eux, dans leur maison. Et qu'ainsi, ils puissent se rétablir, être prêts pour ton service. Merci pour ta parole. Les autres enfants, ceux qui ont besoin de guérison, de délivrance, nous cesserons de te demander parce que toi tu as la clé de toutes ces choses. Nous le savons et nous le croyons de tout notre cœur. Pardonne nos péchés, toi qui pardonnes notre iniquité jusqu'à la millième génération. Nous approchons de toi, te demandons pardon. Et comme Zachée d'autrefois, s'il y a lieu de réparer quoi que ce soit, nous voulons le faire. Que nous te soyons entièrement agréables. Sois au milieu de nous selon ta promesse. Parle-nous. Réponds à nos prières, s'il te plaît, à nos questions. Toi, tu as les réponses. Tout cela, nous te demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Allons lire dans Matthieu 21. La brochure d'où j'ai tiré le message, je l'ai oublié. Mais les choses maintenant, de mémoire. Matthieu 21, 22. Jésus leur répondit. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Le dernier verset que nous venons de lire, verset 22, il dit « Tout ce que vous demanderez ». Il ne bypasse pas ces deux mots avec foi. Il ne dit pas « Tout ce que vous demanderez par la prière, vous le recevrez ». Dites « Amen » ensemble. Pour recevoir, il faut demander avec foi. C'est le sujet, le titre. Avec foi. Alors, dans « J'ai entendu, maintenant je vois », le frère dit ceci, c'est aux environs de paragraphe 69, 70, ça va, 70. Il dit « Vous ne pouvez pas demander avec foi à moins qu'il y ait un réel objectif dans ce que vous demandez et que cela soit dans la volonté de Dieu. Amen. Si on prend ça au niveau humain, à l'échelle humaine, vous voulez aller consulter une banque pour qu'elle vous prête de l'argent. Les banques ne donnent pas, on le sait. Mais après vous avoir fait une grande publicité, disant Vous avez des projets, vous avez besoin d'argent, venez, on s'en occupe. Et vous y allez, si c'est à montant, mais non montant, de toute façon, il y a des banques qui ne prêtent pas pour des petits montants, il faut aller dans les grands montants. Le banquier va vous demander qu'est-ce que vous comptez faire avec cet argent qu'il va vous prêter. Si nous ne consultons pas un banquier, consultons Dieu. Maintenant, quand vous lui demandez quelque chose, selon ce que le frère dit, il dit vous devriez, il faut qu'il y ait un réel objectif derrière. Qu'est-ce que vous comptez faire avec ce que vous lui demandez? Et ce que vous comptez faire avec ce que vous lui demandez, il faut que cela soit dans sa volonté. Avec les banquiers, on peut tricher. On peut dire, oh, c'est pour rénover ma maison, et puis après, vous prenez l'argent, vous détournez, vous faites autre chose avec. Mais avec Dieu, Dieu sait très bien pourquoi vous demandez telle ou telle chose. Si vous demandez la guérison, demandez une bonne santé, Dieu sait ce que vous voulez faire avec cette bonne santé. Si avec cette bonne santé, vous êtes prêt à faire les choses selon sa volonté. Le banquier, déjà, c'est un prêt, vous allez lui restituer. S'il voit que vos projets, ça ne tient pas la route, il vous refusera le prêt. Ça va? Et pourtant, sa publicité est là, disant, si vous avez des projets, entrez, ils vont vous recevoir. Et il vous les donnera. Ce sont des hommes qui peuvent mentir. Dieu, lui, ne ment pas. Qui fait que si Dieu dit ici, par son Fils bien-aimé, il nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Le frère dit, il ne suffit pas de venir demander. Faut que votre objectif et votre motif soient corrects. Ça, c'est entre vous et Dieu. Votre objectif et votre motif. Si vous voulez être en bonne santé, une citation, hein. J'ai entendu, mais maintenant je vois. Alentour du paragraphe 70. Pourquoi voulez-vous être en bonne santé? Si vous voulez être guéri, pour quelle raison voulez-vous être guéri? Que voulez-vous faire avec votre vie lorsque vous serez guéri? Qu'en comptez-vous faire? Que dites-vous à Dieu pour cela? Vous devez avoir un motif et un objectif juste et en accord avec la volonté de Dieu. Dites amen à ça. C'est ça la foi. La foi, c'est de s'attendre à Dieu, c'est-à-dire savoir faire, quand on demande quelque chose à Dieu, savoir faire quelque chose toujours dans la ligne divine, dans ce que Dieu attend de nous. Si je demande à Dieu quelque chose pour un autre objectif, Dieu ne me le donnera pas. Le frère avait reçu une vision. du côté de Jeffersonville, là-bas, Dieu lui avait montré qu'il y avait une nappe de pétrole souterraine. Mais lui, il n'était pas du tout producteur de pétrole. Il ne produisait pas du pétrole, il n'en prenait pas, il n'extrayait pas le pétrole, ça ne l'intéressait pas, il était prédicateur. Et il en avait parlé à des frères, et parmi les frères, vous savez, les frères, les hommes d'affaires du plein d'évangile, les frères, en tant qu'hommes d'affaires, étaient intéressés de savoir où se trouvait cette nappe de pétrole. Le frère dit, ça, je n'ai pas demandé à Dieu. Et Dieu ne me l'a pas dit. De toute façon, Dieu ne fait pas des dons pour que nous puissions faire du commerce avec. Ce n'est pas le but. Le but, c'est l'édification de l'Église. C'est pour notre édification. Quelqu'un qui demande à Dieu pour que Dieu lui montre où exactement il faut aller creuser pour trouver cette nappe de pétrole, eh bien, s'il cherche cela dans un but de s'enrichir ici sur la terre, là n'est pas le but. Amen. Je crois que c'est David qui dit... J'ai oublié le verset, mais il dit, ne m'en donne pas trop, de peur que je ne t'oublie. Donne pas trop peu non plus, pour que je ne te maudisse pas, je crois qu'il dit, donne-moi juste le nécessaire. Dieu sait si vous demandez pour le nécessaire, ou si c'est pour en avoir de trop, ou bien vous remplir les poches. Une fois que les poches sont remplies, vous allez vite l'oublier. Or, lui, il ne nous demande pas de venir ici sur la terre pour remplir les banques, nos comptes en banque, parce que de toute façon, au jour fatidique, nous devons abandonner ce compte. C'est pour nous préparer à vivre avec lui éternellement. Donc, il faut que le motif et l'objectif que j'ai soient justes et soient en accord avec la volonté de Dieu. La foi, déjà, ne l'oublions pas, la foi est un don de Dieu. Elle ne vient pas de vous. Amen. Si Dieu vous donne la foi, c'est pour que vous demandiez des choses justes, afin que Dieu accomplisse sa parole selon qu'il l'ait dit, ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Alors ne vous étonnez pas s'il y a des choses que vous avez demandées, des guérisons, des délivrances, ces choses, vous ne les avez peut-être pas reçus, tout simplement parce que pour Dieu, il est juste que vous demeuriez dans cette situation-là. Parce que Dieu en a, non pas sur votre corps terrestre, Dieu en a sur votre âme. C'est ce qui l'intéresse. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » C'est par grâce. Vous n'avez aucun mérite. J'en ai aucun. « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. La grâce de Dieu, elle est infiniment riche. Ce que Dieu, là où Dieu peut vous faire grâce, l'homme ne peut pas le faire. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Dites amen à ça. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, c'est lui qui nous a façonnés, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Voilà pourquoi nous sommes là, pourquoi nous avons été créés, que Dieu a préparé d'avance, pas pour que nous les contemplions, mais c'est afin que nous les pratiquions. Amen. Donc la foi ne vient pas de nous, elle vient de ce qu'on entend, c'est sûr. Ce qu'on entend, sa parole, elle est un don de Dieu. Et il nous dit, c'est une révélation. Elle vous est révélée. Et par sa grâce souveraine, lui-même vient la placer dans votre cœur. Quand il dit, et vous croyez de tout votre cœur, la place dans votre cœur. Quand Dieu montre ces choses, comme ces gisements de pétrole, ce n'est pas pour qu'on le consulte. Les frères ont commencé à presque, je ne sais pas s'ils l'ont harcelé, mais ils ont commencé à lui demander, dis-nous où c'est. Lui, il leur dit, mais non, Dieu ne fait pas cela pour qu'on en fasse du commerce. Seulement, il montre cela pour que sa parole soit reconnue comme étant vraie. Que les prophéties que Dieu apporte sont véritables. On ne peut pas monnayer les dons de Dieu. Les faux Christ et les faux oints, on en viendra, si Dieu le veut, que nous parlons beaucoup de choses qui doivent arriver avant sa venue. Il y aura ces faux Christ et ces faux oints qui vont se manifester. En Matthieu 24, le Seigneur en parle. Tous ces gens-là que nous voyons aujourd'hui, qui monnaient le don, ils ont... Ce sont des charlatans. J'ai vu, je ne sais pas si c'est vrai, il y avait un prédicateur, je crois qu'il devait avoir de fameux dons, ou bien il a pu en tout cas séduire pas mal de gens. Il demandait à ses fidèles pas moins de 100 000 euros. Et il est devenu, et les gens naïfs qui sont, ils apportaient, ils cherchaient les 100 000. Il y en a qui s'endettaient pour cela. C'était un prédicateur de gens riches. Il leur a promis pas mal de choses. Il est devenu milliardaire. A marché pendant un certain temps. Suite on l'a montré, il est tombé malade. Les milliards qu'il avait en compte ne lui étaient d'aucun secours. Et finalement, on le voit dans son lit d'hôpital, levant la main, priant. Le Dieu qui donne sans argent et sans prix. Il y en a un qui, dans les actes, émerveillé par ce que Dieu faisait, a demandé, il voulait acheter le Saint-Esprit. Parce que le don que nous avons dans 1 Corinthiens 12, selon les dons qui sont énumérés, je crois que c'est 1 Corinthiens 12, oui. Dans 1 Corinthiens, prenons d'abord 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Lorsque Dieu nous fait grâce de ses dons, lorsqu'il nous les donne, il nous accorde, il répand ses dons dans l'assemblée, nous devons toujours regarder si ces dons profitent à l'œuvre divine. Dès le moment où ça profite à l'individu, mettez ça de côté. Ça a toujours été pour l'utilité commune. Amen. Pour votre guérison, rien que votre guérison, Dieu ne va pas vous faire un don de guérison pour cela. Il peut vous donner la foi, parce qu'il dit, il en soit fait selon votre foi. Les choses seront faites selon la foi que vous avez. Mais si c'est pour s'attirer des avantages, de sortir d'affaires d'une manière détournée, soyez sûr, cela n'est pas de Dieu. Mais si Dieu y trouve son compte, amen, alors là, quel que soit le don, que ce soit la prédication, que ce soit ces dons qui sont énumérés, le don de prière, le don de composer des cantiques, que sais-je, tout doit être pour la gloire de Dieu. Amen. Si Dieu n'y trouve pas son compte, il y a un problème. Dans Actes chapitre 8, si Dieu le veut, un jour nous parlerons de ses dons. Mais plein de choses. Allez, on peut commencer au verset 5. Ce en effet, d'abord il faut que nous marchions non selon la chair, mais selon l'esprit, verset 4. Donc nous sommes, je suis dans Romains alors. Acte 8. On va commencer plutôt au verset 8. Allez. Non, on va commencer au 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Philippe. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques, de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Maintenant, dans la ville, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement, le Simon en question, et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Il avait de la puissance. Il l'écoutait attentivement, parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. C'est interdit dans la parole. C'est dévoué par interdit ces choses. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Il a vu une puissance plus grande que la sienne. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Vous voyez ? Philippe ne s'est pas étonné de ces miracles à lui, mais lui s'étonne des miracles de Philippe. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que c'était pas des miracles qu'il lui faisait, c'était des prodiges. Ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, les apôtres, donc ils prièrent pour les Samaritains, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Et sans argent et sans prix. En disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Ça ne s'achète pas. Dit amen à ça. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Et ça, ce sont des envoyés de Dieu. Ils n'ont pas besoin de cet argent-là. Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Vous voyez ? Si le cœur n'est pas droit, ça ne sert à rien de demander. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Le cœur doit être droit. Maintenant, j'ai un besoin. Quand ce besoin sera satisfait, qu'est-ce que je compte en faire? Pour que Dieu me donne la foi, pour que ce besoin soit satisfait, il faut que mon objectif soit juste devant lui. Ça va ? Bartimée était mendiant, ne pouvait pas travailler dans l'état où il était. Handicap, aveugle. Il avait entendu parler du Messie, du Christ. Quand Jésus a posé la question dans Matthieu 23, je crois, aux pharisiens, « Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il fils ?» Ils ont tous répondu sans problème, ce sont des choses qu'ils savaient dans les Écritures. Ils ont tous répondu, le fils de David. C'est pourquoi Bartimée, quand il a entendu que c'était lui, sachant au fond de lui que c'était le Messie. Comment l'a-t-il su? Dieu lui a parlé certainement dans le cœur pour lui faire comprendre que c'était Jésus, celui qui devait venir. Et Bartimée s'est mis à crier, Jésus, fils de David. En criant ainsi, il montrait qu'il croyait que Jésus-Christ était bien le Messie attendu. Quand un Juif pouvait l'appeler fils de David, c'est qu'il avait la révélation que c'était le Christ. Parce que pour savoir qu'il est le Christ, selon ce qu'il a dit à Pierre dans Matthieu 16, il fallait une révélation d'en haut. Que le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans Marc 10, nous voyons Bartimée. Donc Bartimée, ça veut dire fils de Timée. Ce n'est pas le nom comme ça, c'est le nom. Son père s'appelait Timée, mais on a mis ça en un mot, Bartimée. Ils arrivèrent à Jéricho, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Amen. Et là, il savait, en disant ça, il savait à qui il avait affaire. Tout comme lorsqu'il nous est dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Si vous le reconnaissez là, au milieu de nous, vous êtes en droit de l'appeler. Amen. Encore un peu de temps. Le monde le verra, le monde ne le verra plus. Et encore un peu de temps, ses disciples le verraient. Lorsque vous lisez doucement, lentement, dans les lignes de prière, vous pouvez dire telle personne à tel endroit. Vous qui priez là, tel endroit, telle rangée, telle colonne, vous priez pour. Parce que vous avez telle maladie. Parfois, il ajoutait ceci, il disait, allez-y, vous avez touché le bord de son vêtement. Ça veut dire que la personne a réellement touché le bord de son vêtement. Par la foi. Ce n'est pas une parole en l'air. Cette personne-là, parmi toute la foule, toute la communauté qui était présente ce jour-là, cette personne a touché le bord du vêtement du Seigneur. Comme cette femme dans Luc chapitre 8, où elle dit, si jamais je touchais le bord de son... Elle avait fini, elle avait perdu tout son argent chez les médecins. Tout était négatif pour elle dans ce sens. Donc, sa vie, comme les frères ont chanté, sa vie, elle voyait sa vie s'en aller. Et lorsque Jésus est passé, il passait parmi beaucoup, au milieu de beaucoup de gens. Pour elle, c'était, elle l'a vu, elle a dit, si je touchais le bord de son vêtement. Il a touché et touché. Parce que ce jour-là, il y avait tellement une foule autour de lui qu'il y a beaucoup de gens qui le touchaient. Vous voyez ? Certainement qu'il fallait chaque fois lui frayer un chemin pour qu'il passe dans cette situation-là. Mais quand cette femme l'a touché, il s'est arrêté et a dit, « Qui m'a touché ?» Disciple, on va le lire, hein. On va revenir à Bartimée. Luc chapitre 8. Les disciples vont le lui dire, mais Seigneur, ça n'a pas de sens. Verset 44, retenez Marc 10.
Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, « Ce n'est pas moi. » Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. » Et tu dis, « Qui m'a touché ?» Il dit, « Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché. » Quand la foule le presse, nous pensons que la foule le touche. Non. Pour lui, le sens de toucher, c'est autre chose. Il ne parle pas de la foule, il parle de quelqu'un qui l'a touché. Et il dit, « Car j'ai connu, j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Il a senti quelque chose. Ça ne peut arriver que si on le fait avec foi. Et le Seigneur va lui dire, la femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds, déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Amen. Marc 10 donc, on revient. Verset 47, d'abord avec ses disciples et une assez grande foule. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Au lieu de crier, Jésus de Nazareth, aie pitié de moi, il va crier et il se met à crier, fils de David. Jésus, aie pitié de moi. Quand il dit ça, ça veut dire qu'il croit que Jésus de Nazareth est le fils de David. Ça veut dire, le fils de David, selon Matthieu 23, le fils de David, c'est le Christ. Aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Comment a-t-il su que Jésus était le fils de David, le Christ? Comment le sait-on? Par révélation. Dites amen à ça. Matthieu 16. Parce que Pierre dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Aujourd'hui, le Christ, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est prêt à vous aider. Il est prêt à répondre à vos prières. Il est prêt à cela. Sans problème. Mais encore faut-il avoir la révélation de lui quand il passe. Et pour avoir cette révélation, il faut encore savoir par où il va passer, où il est. On est ensemble. Je peux vous montrer, hein. Regardez, Zachée, il est allé manger chez Zachée. Vous êtes d'accord que nous aimerions bien que ce soir, il vienne manger chez nous. N'est-ce pas? On serait content. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'il est parti manger chez Zachée, il n'y a pas de raison qu'il ne vienne pas manger chez vous. D'autant plus que, il dit dans Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvrira, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. C'est une promesse. Ça va? Encore faut-il, lorsqu'il frappera à la porte, qu'on le reconnaisse. Que c'est bien lui qui frappe à la porte. Quelle porte? La porte du cœur. Zachée, il n'est pas parti sur le sycomore par hasard. Sur ce sycomore-là, ce n'était pas le seul sycomore à Jéricho. Il y en avait certainement d'autres. Il y en a encore d'autres. Il paraît que ce sycomore-là existe toujours. Je ne sais pas, je n'ai jamais été là-bas. Verset 4 de Luc 19, Zachée courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Pourquoi sur ce sycomore-là? Parce qu'il devait passer par là. Jésus devait passer par là. Quand je viens à l'assemblée, je ne viens pas pour le plaisir de venir à l'assemblée pour qu'on me voie et qu'on dise, bon voilà, comme ça, personne ne va m'appeler pour me demander, frère François, pourquoi tu ne viens plus? Ce n'est pas ça. Quand je viens à l'assemblée, je ne viens pas pour les autres, qu'on soit content de me voir ou qu'on ne soit pas content de me voir, cela m'importe peu. Je viens à l'assemblée parce que je sais que Jésus-Christ a promis d'être là, au milieu de nous. Et c'est pour cela que je viens. Parce que je veux le voir, lui. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui, soit pour moi-même, soit pour quelqu'un d'autre qui ne sait pas se déplacer, mais j'ai besoin de lui. Et c'est lui que je veux voir. Et ça coûte parfois pour avoir la position de le voir. Ça coûte. Ça a coûté à Zachée de monter sur un sycomore. Il était riche, Zachée. Il avait de beaux habits, Zachée. Des habits tels que, quand vous êtes bien habillé, vous savez, à l'époque où il y avait des bus à Kinshasa, quand vous vous habillez bien et que vous deviez prendre le bus, vous réfléchissiez avant de prendre le bus. Hein. Parce que vous êtes tellement entassé dans les bus que votre chemise blanche, elle n'est plus blanche à un moment donné quand vous allez arriver. Oui. Mais Zachée, qu'importe ce que le sycomore peut causer comme dégâts sur ses vêtements, il voulait voir Jésus, ce n'est pas un sycomore qui va l'arrêter. À ce moment-là, il ne pense pas à sa belle tunique. Il pense, lui, son objectif. L'objectif, le motif. Son objectif, le motif, c'est quoi? Il voulait le voir, que le Seigneur vienne souper. Il avait besoin du salut. Le salut entre chez lui. Bon, que Jésus entre chez lui. Son objectif, c'était que Jésus, qu'il voie Jésus. Et il voulait le voir. Pourquoi? Il avait un besoin en lui. Pas juste pour le plaisir de le voir. Alors, Bartimée, il était assis au bord du chemin, attendant qu'il passe. Il en a entendu parler. Mais c'est là qu'il mendiait. Mais ce jour-là, une certaine rumeur arrive. Ce qu'il disait souvent, peut-être combien de fois il n'a pas demandé aux siens de l'amener à Jérusalem, là où il entendait parler du Seigneur, n'est-ce pas? Mais peut-être que personne ne voulait l'amener à Jérusalem. Et lui, étant aveugle, il n'en connaissait pas le chemin. Tant qu'aveugle. Et il avait dit, si je savais comment y aller, je serais allé. Tout ça, Dieu voit ça. Et c'était certainement le sujet de ses prières. Que quand le Messie viendra, le Messie lui redonnera la vue. Et le Messie saura où il est. Il le reconnaîtra. Alors il a commencé à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi. » Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Sans l'ombre d'un doute. « Pas si tu peux, si, non. » Rabouni lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Il savait que le Christ allait le faire. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Maintenant, quand il a la vue, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas courir ailleurs. Non, non. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Si vous avez besoin de la vue spirituelle, ou même la vue tout court, pour le suivre, il n'y a pas de problème. Si c'est pour suivre les choses du monde, ça veut dire que vous avez la vue pour se laisser séduire, pour vous laisser séduire par les choses du monde, les séductions du monde, il vaut mieux que vous restiez aveugle. Dites Amen. Devant, pour Dieu, c'est cela. Pour que le monde et ses attraits, comme dit le cantique, ne vous séduisent jamais, ben, il vaut mieux que vous restiez aveugle. Mais si par contre, il est possible, si par contre, ça ne vous dira rien, désormais vos yeux, comme vous le chantez, la croix, elle est devant moi, moi c'est fini, je ne recule plus, Dieu va vous redonner la vue. Ben, je n'ai pas amené la brochure, c'est dommage, mais le frère dit, Dieu doit intervenir. Il doit vous guérir. Donc, il a suivi Jésus sur le chemin. L'aveugle né, il est né aveugle, il n'a jamais vu la lumière du soleil, il n'a jamais vu ce que c'était, il a les couleurs, il n'en savait rien, il ne savait rien de toutes ces choses. Il était aveugle, il n'a jamais vu ça. Il est né aveugle. Et on l'a vu sur le chemin. Je ne sais pas en tout cas, mais c'est quelqu'un qui en savait quand même un bout. Il connaissait beaucoup de choses. Dans Jean 9, il savait par exemple au verset 30, il va répondre aux pharisiens. Cet homme leur répondit, donc l'aveugle, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Il dit, nous savons, il le savait, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Ce sont des choses qu'il savait. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes et ils le chassèrent. Vous savez que Jésus-Christ va venir à lui et va lui poser la question, verset 35. Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Il a été chassé pour avoir rendu témoignage du Seigneur Jésus-Christ. L'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Du coup, et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il adora. Comment est-ce que Dieu ne peut pas, te donnerait-il pas sa vue à ce monsieur, à ce frère? La vue qu'il a eue lui a permis de croire au Fils de Dieu. Très important. Croire au Fils de Dieu, il ne suffit pas de dire oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Non. Croire au Fils de Dieu, c'est savoir que le Fils de Dieu, c'est Dieu dans la chair humaine. C'est Emmanuel, c'est Dieu avec nous. C'est que vous croyez, en tout cas pour nous ici, c'est que les témoins de Jéhovah ne croient pas. Ils savent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais leur dire qu'il est Emmanuel, ils n'y croient pas. Pourtant, la Bible le dit. Pas simple de le croire. pour une révélation. Et il l'a adoré, n'est-ce pas? Au verset 38, il dit, je crois Seigneur, et il adora. Le temps est passé, on peut parler de l'infirme à la porte appelée la belle, n'est-ce pas? Dans Actes 3, versets 4 à 9. Il n'avait pas de jambes, il n'avait pas de bras. Mais quand tu auras tes jambes et tes bras, qu'est-ce que tu comptes en faire? Amen. Au lieu d'utiliser ses bras et ses jambes pour aller voler et courir, il utilise ses bras et ses jambes pour glorifier Dieu dans le temple. À peine il a été guéri, il n'a pas quitté Pierre et Jean. Il est resté avec eux. Ils étaient partis prier. Il est resté avec eux, glorifiant Dieu. Donc, au verset 7 de chapitre 3 des Actes, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Quand vous chantez de mes pieds, je veux suivre Jésus. Il vous donnera les pieds pour cela. Dieu attend de nous que nous soyons ses témoins. C'est que Jésus-Christ dit dans Actes chapitre 1, verset 8, que nous soyons témoins que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous. Pour cela que pour nos expériences par lesquelles nous sommes passés, nous avons eu cette confirmation en nous que réellement, c'est Dieu dans la chair humaine, Jésus-Christ. Nous avons eu cette confirmation-là grâce aux expériences que nous avons vécues. Et avec ces expériences, que nous puissions aller témoigner que réellement, c'est Dieu dans la chair humaine. C'est réellement cela, c'est tout à fait ça, n'est-ce pas? Que c'est lui qui devait venir, c'est lui le Christ, fils du Dieu vivant. Il attend de nous que nous l'adorions. Jean 4, avec la Samaritaine. Père demande des adorateurs en esprit et en vérité. On adore qui ? On adore Dieu. On a la conviction que c'est Dieu. Cela nous est révélé que c'est Dieu et nous venons, nous l'adorons. Amen. Le frère a même dit, vous pouvez lire le paragraphe, à partir de « J'ai entendu, maintenant je vois ». Paragraphe 66, au-delà de 75, le frère dit même, Ézéchias, le roi Ézéchias, Dieu lui a rajouté des années parce qu'Ézéchias avait encore le désir de mettre de l'ordre dans sa maison. C'est ainsi que Dieu lui a rajouté des années. Il faut que l'objectif et le motif soit juste. Il faut une bonne raison, juste, valable, pour que je puisse recevoir ce que je demande à Dieu. Parce que Dieu, il est bon, il est juste, nous sommes mauvais. Dieu qui est bon, si nous lui demandons du pain, il nous donnera du pain. Dites amen à ça. Mais il ne nous donnera pas un serpent ou un scorpion. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il ne nous donnera pas quelque chose qui nous tourmentera. Il nous donnera du pain. Nous demandons du pain. Prions le Seigneur. Nous voulons prier ce soir, Père Céleste, afin que tu viennes au secours de notre incrédulité. Comme cet homme qui avait crié, qui avait poussé ce cri, il avait besoin de la foi véritable, celle qui vient de toi, pour implorer, pour demander grâce en faveur de son fils qui était pris par un démon vivant. Nous de même, nous avons des besoins. Tu nous demandes, tu nous conseilles, tu nous le dis, de demander avec foi. Nous ne voulons pas juste demander comme cela en l'air, et que nous demandions avec foi. Pourquoi, pour nos besoins, nous voulons nous approcher de toi. Reconnaissons, tel est le cas chez les uns ou les autres, en tout cas chez moi. Je reconnais, Père, cette foi-là, je ne l'ai pas. Viens à mon secours pour ça. Viens au secours de celui qui te le demande, au secours de son incrédulité, au secours de la mienne. Que tu me donnes la foi qui obtient les promesses. Que tu donnes à mon frère, à ma sœur, qui en a besoin. Les disciples eux-mêmes, un jour, ils ont dit, augmente-nous la foi. Nous avons besoin que tu nous l'augmentes également. C'est notre prière ce soir. Nous ne voulons pas le faire, demander avec des motifs égoïstes, mais nous voulons te demander cela de manière à ce que, si nous recevons les choses que nous te demandons, que nous puissions agir d'une manière qui te soit agréable, que nous puissions marcher d'une manière qui te plaise et que tu trouves en nous ton plaisir. Tu connais les désirs de nos cœurs, tu connais les sujets de nos prières, que nous prions pour les nôtres, pour nos maisons, nos femmes, nos enfants, nos parents, nos époux, que nous te prions pour eux, te prions pour que nous puissions marcher ensemble, famille, t'exaltant, te louant, te servant, tous ensemble, dans l'unité de l'esprit, te louant, t'adorant et rendant témoignage de ta bonté, ta grandeur. Telle est notre prière ce soir. Augmente-nous la foi. Que tu répandes le Saint-Esprit au milieu de nous. Nous te demandons le Saint-Esprit. Que cela soit pour une raison juste. C'est l'Esprit de Dieu. Aussi, purifie nos motifs. Ajuste-les, Seigneur, pour que nous te demandions des choses d'une manière qui te soit agréable. Accompagne-nous dans nos maisons. Prends le contrôle de nos vies ce soir. Et toi seul, conduis-nous. Te remercions pour la soirée, la réunion que nous avons eue. Accompagne-nous dans nos maisons. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.